Les rendez-vous santé d'Africa Radio, la prévention, en partenariat avec Santé publique France.
Un virus, le Covid-19, est apparu en Chine fin décembre 2019. Il appartient à une grande famille de virus, les coronavirus. Très fréquents, ils peuvent aussi bien provoquer un simple rhume qu'une grave infection respiratoire de type pneumonie, à l'origine d'épidémies mortelles, comme ce fut le cas avec le SRAS ou le MERS, et maintenant avec le Covid-19. L'OMS, donc, a qualifié pour la première fois la propagation alarmante du Covid-19 de pandémie. En France, l'épidémie de coronavirus progresse, et selon les derniers chiffres des autorités, il y a 2881 cas confirmés et 48 victimes. Docteur Isabelle Bonmarin, merci de nous rejoindre sur le plateau d'Africa Radio. Vous êtes responsable de l'unité prévention des risques infectieux et environnementaux à Santé publique France. Alors la première question, c'est aussi l'une des questions que nous a posé un auditeur tout à l'heure. Alors comment reconnaître les symptômes du Covid-19 alors qu'il y a toujours l'épidémie de grippe qui sévit en France? Alors comment savoir qu'on a le coronavirus et les symptômes. Bonjour.
Bonjour. Alors oui, effectivement, c'est ce qui nous embête, c'est que l'épidémie de grippe est aussi toujours là et que cliniquement, c'est très difficile de faire la différence entre ces maladies. Ben, comme vous le disiez tout de suite, ça peut être un simple rhume, ça peut être, souvent il y a une toux sèche, des maux de tête, des courbatures, mais c'est des signes qu'on rencontre aussi. Pour la grippe, la seule façon de faire la différence, c'est faire un test en faisant un prélèvement nasal pour voir si oui ou non on trouve le virus.
Oui.
Alors ce test, tout le monde ne peut pas le faire, hein, parce que sinon, pour l'instant, à chaque fois qu'un cas entre dans la définition de cas qui est actuellement... celle qui existe actuellement,
oui.
À ce moment-là, il y a tout un processus pour... amener le patient dans un hôpital, l'isoler, lui faire le prélèvement pour confirmer le cas. Mais dans quelques jours ou quelques semaines, ça c'est quelque chose de difficile à dire, hein, quand on sera en niveau 3, il ne sera pas possible de faire un test à tout le monde. Et dans ce cas-là, ça sera un diagnostic purement clinique.
Alors, à partir de quel moment on parle de cas, en fait ?
Alors, pour l'instant, on a effectivement une définition de cas qui... Alors, en fait, c'est des signes d'infection respiratoire aiguë, alors savoir une toux sèche associée à une fièvre. Et là, on devient un cas possible si, avec ces signes, on revient d'une zone où le virus circule activement.
Oui.
Ça, c'est une première façon de rentrer dans la définition de cas. Ou alors, si on a eu un contact étroit avec un cas confirmé de coronavirus... Une autre façon également de rentrer dans la définition de cas, c'est si on a eu une pneumonie, qu'on est hospitalisé, qu'on ne trouve pas de cause à cette pneumonie. Généralement, c'est des bactéries, des choses comme ça. Si on ne retrouve pas de cause, eh ben, on rentre dans la définition, même si on n'a pas de notion de voyage.
Alors, on parle en fait d'une contamination de l'animal à l'homme. Alors, on suspecte le pangolin ou la chauve-souris, c'est ce qui revient.
Oui.
Alors, comment est-ce possible cette transmission de l'animal à l'homme ?
Ça, ça se voit dans la grippe, ça se voit dans d'autres maladies. Normalement, effectivement, l'humain, le réservoir, c'est probablement la chauve-souris. Et là, cette contamination à l'homme se fait par une promiscuité très importante. Et en Chine, il y a des marchés avec des animaux vivants, avec une forte concentration et d'animaux et d'humains, ce qui fait que voilà, à un moment, il y a un échange de virus entre l'animal et l'homme.
D'accord. Alors la transmission de l'homme à l'homme, comment se fait-elle cette transmission ?
Alors c'est une transmission avant tout respiratoire, c'est-à-dire que c'est des gouttelettes avec du virus qui proviennent d'un malade et qui contaminent les personnes qui sont à proximité. Alors soit ça c'est une contamination directe,
oui,
au moment de toux, d'éternuement, ou même lors de discussions rapprochées, quand on est à moins d'un mètre d'une personne et qu'on discute pendant plus de 15 minutes, et ben c'est une façon de contaminer l'autre. La contamination indirecte, c'est quand toutes ces gouttelettes tombent ou sur les mains, ou sur des poignées de porte, sur des surfaces, des objets qu'une personne non malade va ensuite toucher.
Oui.
C'est une autre façon de se contaminer.
Alors, est-ce qu'on peut attraper la maladie par l'eau ?
Par l'eau, non. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de contamination en buvant de l'eau, ou il n'y a pas eu de contamination en tout cas prouvé avec de la nourriture qui aurait été contaminée par un malade. C'est vraiment une contamination respiratoire essentielle.
Alors on parlait des personnes à risque, donc c'était aussi l'objet d'une des questions d'un auditeur. Alors pourquoi ce sont les personnes qui ont un certain âge, qui ont par exemple des difficultés respiratoires ou des maladies chroniques qui sont les plus à risque ?
Ça, on comprend pas toujours le pourquoi des choses, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'assez commun sur toutes les pathologies respiratoires. La grippe, c'est la même chose. Ce sont les personnes âgées, ce sont les personnes avec certaines pathologies chroniques. Et voilà, c'est des fragilités qui font que une infection respiratoire va déséquilibrer un état de santé qui est déjà un peu précaire et qui va générer du coup des formes plus graves dans cette population-là.
Et les femmes enceintes, en fait, on n'en parle pas beaucoup.
Non, parce que les femmes enceintes, pour l'instant, alors là, on découvre la maladie.
Oui, hein, d'accord.
Alors, les études, il y a eu très peu d'études qui ont été faites, et il n'y a pas d'évidence encore que les femmes enceintes soient particulièrement à risque. Mais probablement, par mesure de sécurité, on va les considérer à risque, En parallèle avec ce qu'elles sont pour la grippe.
Oui. Alors, on voit qu'il n'y a pas de cas, ou très peu en tout cas, d'enfants infectés. Pourquoi ?
Là aussi, ça fait partie des inconnus et des choses qu'on ne comprend pas encore à ce stade de la pandémie. Très peu d'enfants, effectivement, les moins de 20 ans sont très peu touchés. Alors, on ne sait pas s'ils ne font pas du tout la maladie ou s'ils la font en ne développant aucun signe clinique.
Oui.
Bon, ça, on n'a pas. Je pense qu'on va le découvrir au fur et à mesure des semaines ou des mois. Mais en tout cas, cette population fait pas de forme grave, enfin, paraît protégée.
Pourquoi ferme-t-on les écoles alors ?
Alors pourquoi on ferme les écoles ? Parce que dans l'absolu, on se dit si jamais ces enfants font des formes asymptomatiques, sans signe clinique, mais ils contribuent à la diffusion du virus. Donc, à défaut d'avoir une certitude sur cette circulation chez l'enfant, on préfère fermer les écoles pour vraiment réduire la diffusion du virus. Aujourd'hui, on est vraiment dans une lutte pour réduire au maximum cette diffusion.
Alors, est-ce qu'on connaît les délais d'incubation ? Est-ce qu'on est sûr de ce qu'on sait à ce sujet ?
Alors, une fois de plus, au fur et à mesure des études qui se répètent, les choses évoluent un peu. Mais c'est vrai qu'on tourne autour de 4-5 jours et plusieurs études vont dans la même direction.
Alors on parle de personne contact, c'est quoi une personne contact ?
Une personne contact, c'est quelqu'un qui a été en contact avec un cas confirmé de coronavirus.
Oui.
Alors on les divise globalement en deux groupes, ceux qui ont vraiment eu des contacts très rapprochés. Ce sont les gens de la même famille,
les conjoints, les enfants,
voilà, c'est ça, les flirts, les voisins de classe, enfin vraiment des gens qui sont en contact longtemps et répétés, et on les considère donc comme des contacts étroits. Et puis l'autre groupe, qui sont des contacts moins forts, c'est juste... des discussions avec un cas confirmé, mais qui n'ont pas été répétées, qui n'ont pas duré plus de 15 minutes, qui n'ont pas toujours été faites à moins d'un mètre, etc.
Alors, comment ne pas céder à la psychose ? La France retient son souffle face à ce virus. Sa contagiosité est loin d'être négligeable. Alors, comment réagissent les Français ? Carole Gallois est partie à leur rencontre. On écoute ça tout de suite.
Avez-vous peur du Covid-19 ?
Il y a trop d'efforts à faire pour ne pas l'attraper, en fait. Il y a trop de choses à faire pour une vie sociale. C'est vraiment difficile.
On m'a dit que ça ne touchait pas les Noirs. C'est une rumeur. Donc, moi, je n'ai pas trop peur par rapport à ça. Notre virus, c'était Ebola.
En France, ici... C'est tellement motivé que tout le monde bouge de partout. Et même, tu peux même plus toucher quelqu'un, tu peux même plus tousser, même si tu es grippé, plus dire bonjour à quelqu'un.
Si ça doit nous atteindre, et ben ça nous atteindra.
C'est plus parce que c'est nouveau que ça fait peur.
Comment vous protégez-vous justement ?
En se lavant les mains, on suit les consignes, on se protège.
Je sors pas beaucoup en fait. J'essaye d'éviter au maximum. Je limite le métro aussi.
Précautions de base, se laver les mains régulièrement, des choses qu'on faisait avant.
Pas faire de bisous et puis bon, essayer de me laver les mains à chaque fois que je peux.
Êtes-vous suffisamment informé, selon vous ?
Oui, je pense.
Je suis juste informé un minimum, je regarde pas trop les informations. Les gens, ils prenaient tout dans les magasins. Je crois que je vais faire comme eux.
Tu te dis partout où tu vas, tu peux prendre le virus, donc On s'attend à tout.
Bah, théorie du complot, je sais pas. Il y a des États qui se font la guerre à l'heure actuelle. Tellement on n'est pas renseigné déjà sur notre propre terre qu'on pourra pas savoir exactement d'où vient ce virus.
Est-ce que vous avez peur de voyager ?
Non, même pas. On a eu l'Ebola chez nous, ça ne nous a pas fait trop peur que ça. Donc, parce qu'on a eu plus pire que ça en Afrique, donc c'est pas ça qui va nous faire peur.
Parce qu'en voyageant, on côtoie les gens qu'on ne connaît pas forcément, donc on ne sait pas d'où ils viennent aussi.
Bah, j'envisage de voyager là, au Canada. Là. C'est comme une grippe normale pour moi, en fait. Il faut juste faire attention.
Je ne vais pas me priver de voyager parce qu'il y a Covid-19 ou quoi. Si ça doit m'attendre, ça m'attendra et voilà.
Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été dites hein, parmi ces choses. Mais, j'en ai retenu certaines. Trop d'efforts à faire, en fait, pour éviter d'être contaminé. Ça ne touche pas les Noirs. Le métro est un lieu de forte contamination. Et il y a aussi beaucoup de comparaisons avec Ebola. Comment vous réagissez après ce micro-trottoir, docteur Isabelle Bonmarin ?
Alors, bon, là, je reprends Ebola. Ebola, c'était pas la même transmission.
Oui.
Et c'était effectivement pas la même gravité de maladie. Ebola, c'était beaucoup plus mortel. Là, on a une transmission respiratoire. Alors, c'est vrai que c'est difficile de la prévenir parce qu'on a tous des contacts, on respire aussi et on peut pas s'empêcher de le faire.
Oui.
Mais bon, il y a aussi des mesures d'hygiène de base qu'il faut renforcer pour réduire ce risque de contamination.
Alors, il y a un monsieur qui dit, ouais, je prends plus le métro, c'est trop dangereux. Vous en pensez quoi?
Alors, tous les lieux de promiscuité, effectivement, on augmente le risque de se contaminer. Si on a la possibilité de faire autrement, et bien c'est très bien. Mais il y a des tas de gens qui ne peuvent pas faire autrement que de prendre des transports en commun. Alors les précautions à prendre dans ce cas-là, ben bon, là, c'est essayer de prendre des distances avec ses voisins, si tant est que c'est possible. Bien se laver les mains après avoir pris les transports en commun, voilà, ce genre de choses pour une fois de plus diminuer ce risque d'être infecté.
Alors justement, au fur et à mesure que l'épidémie de coronavirus s'intensifie sur le territoire, les pharmaciens doivent répondre à des sollicitations provenant des patients comme du pouvoir public. Carole Gallois est partie à leur rencontre, on écoute et on se retrouve après.
Achetez-vous du gel hydroalcoolique ?
Oui. J'en ai à la maison.
J'en ai acheté, j'en achète, bien avant Covid-19 aussi, parce que je le faisais avant aussi.
Oui, tout à fait. Et je l'utilise très souvent.
Il n'y en a plus ici, on veut en acheter, mais il n'y en a plus nulle part, donc on ne peut pas en acheter.
Oui, j'en ai à la maison. Et j'ai même vu sur un gel hydroalcoolique qu'en 2017, le coronavirus, il existait. Donc voilà, moi je pense que cette maladie, elle ne date pas d'hier.
Non, j'en achète pas, non. J'ai la chance d'en avoir au travail.
En achetez-vous en grande quantité ?
J'ai acheté au moins 10. Mais là, il n'y en a plus, on ne trouve plus.
Non, pas du tout.
Oh, normal. Hein.
Non, grande quantité, non. Je souhaiterais pouvoir en avoir quand je veux, mais il n'y en a pas nulle part. Même chez mon médecin, il n'y en a plus. Elle n'en a pas, elle n'arrive pas à en trouver.
Demandez-vous des conseils aux pharmaciens ?
Pas du tout, parce que je ne pense pas que j'en ai réellement besoin. C'est plus les personnes qui ont peur du Covid-19.
Je suis le titulaire d'une pharmacie. Bah, quand même, on nous demande souvent conseils parce que pour aller chez le médecin, c'est un peu plus compliqué. On nous demande justement comment on doit être face à ce virus qui traîne un peu partout.
Pas encore. J'attends d'avoir peut-être un problème, mais pour l'instant, non.
Non, parce qu'on est assez informé et que ça va, si on se lave les mains et qu'on tousse pas et qu'on fait pas des bisous à tout le monde, ça va aller.
Non, j'ai jamais demandé. Je regarde beaucoup la télé.
Pensez-vous que le gel sera efficace pour contrer le virus ?
Seulement le gel, non.
Non, même tu laves les mains, ça va toujours t'assassiner au fait. Le gel, ça fait rien.
Ça peut être efficace, mais pas à 100%. Parce que je crois que ça se transmet par l'air.
Après, c'est une précaution à prendre. Ça donne des chances de l'attraper, donc il faut quand même le faire.
Pourquoi tout le monde a peur du coronavirus alors que la grippe, c'est beaucoup plus contagieux ? Il y a eu beaucoup plus de morts.
Alors, vos réactions, docteur, après ce micro-trottoir ?
Alors... D'une part, alors il y a effectivement, c'est une transmission respiratoire, je l'ai dit, mais c'est le virus est dans des grosses gouttelettes, donc ces gouttelettes, elles vont pas très très loin et elles tombent assez rapidement.
D'accord.
Donc et ça, le virus reste pas dans l'air comme ça pendant des heures, ça c'est pas vrai. Donc la chance, effectivement, c'est en limitant la promiscuité avec des gens qui sont infectés, on réduit ses chances d'être soi-même infecté. Alors, la comparaison avec la grippe, alors c'est vrai que ça se transmet exactement de la même façon. C'est vrai aussi qu'on oublie que chaque année, la grippe fait entre 9 et 10 000 morts. Hein.
Oui.
Là, la différence, c'est qu'à partir des premières données qu'on a, On aurait une proportion de décès parmi les cas qui pourrait être un peu plus élevée, avec des âges un petit peu plus jeunes. C'est vrai que la grippe, c'est souvent, enfin les décès en tout cas, au-delà de 70-80 ans, là c'est un peu plus, quelques années en dessous. Bon, maintenant, enfin voilà, c'est un peu la différence. La grippe, il y a quand même une bonne partie de la population qui est immunisée, soit à travers la vaccination, soit parce qu'elle a déjà eu la maladie. Alors que là, pour le coronavirus, comme c'est un nouveau virus qui circule chez l'humain, on est tous, j'allais dire, un peu vierges et sans protection.
Alors justement, faut-il se laver les mains avec du savon ou du gel hydroalcoolique ?
Alors ce qui est important, c'est de se laver les mains.
Ouais.
Et de bien se laver les mains.
Combien de temps ?
Alors, dit 20 à 30 secondes. Ce qui est important, c'est vraiment de se laver les mains, le creux des mains, entre les doigts, le dessus des mains, pas oublier le pouce, pas oublier les ongles. Et ça, ça prend au moins 20 secondes pour faire ça correctement.
D'accord.
Alors, quand on a un accès à l'eau, bah, c'est parfait de pouvoir se laver les mains avec de l'eau et du savon. L'intérêt des solutions hydroalcooliques, c'est justement qu'il n'y a pas d'accès à l'eau, et bien pouvoir se frictionner les mains. Et avoir des mains qui sont propres.
Et les savons, en fait, dans les collectivités, par exemple, vous savez, souvent, comme c'est le cas dans les écoles, par exemple, le savon que tout le monde utilise les uns après les autres, est-ce que c'est efficace ?
Alors, c'est vrai qu'on n'aime pas trop, mais une fois de plus, c'est une meilleure solution et c'est mieux que de ne pas se laver les mains.
Alors, les masques également, on voit donc dans la rue des personnes qui portent des masques. Donc, est-ce qu'il est recommandé, à partir de quel moment doit-on utiliser ces masques ?
Alors, les masques sont recommandés uniquement pour les personnes qui sont malades, qui toussent, qui ont de la fièvre, enfin voilà, qui sont symptomatiques, et celles qui en prennent soin. Donc, c'est à la fois tous les soignants et à la fois, bien sûr, les patients. Si vous n'avez aucun symptôme, il n'y a aucun intérêt de porter un masque.
Alors, à présent, on va parler de que faire en cas de contamination. Que faire si l'on pense avoir contracté le Covid-19? Comment on doit réagir?
Alors, si on soupçonne d'avoir le Covid-19, il faut rentrer en contact avec son médecin. Alors, le mieux, c'est de l'appeler, hein, d'éviter d'aller dans sa salle d'attente ou d'éviter d'aller aux urgences pour éviter de contaminer les personnes qui seraient là, qui attendraient. Et ensuite, bon, après discussion avec le médecin, il est décidé ou non d'enclencher tout le système. Alors, tout le système, c'est une validation de la définition de cas là, dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec un infectiologue ou le centre 15. Si on considère que le patient rentre dans la définition de cas, à ce moment-là, il est hospitalisé, isolé, on le teste et on voit s'il y a confirmation ou pas.
Alors, en général, on parle de 14 jours, c'est le délai de confinement moyen en France. On a vu en Chine, notamment, que les personnes qui avaient été confinées, plus de 40 jours. Alors, est-ce que c'est suffisant lorsque, par exemple, on est dans une zone à risque? Moi, j'habite dans l'Oise, par exemple. Les écoles sont fermées pendant 14 jours. Les recommandations, c'est de rester chez soi pendant 14 jours. Est-ce que ce délai est suffisant?
Alors, là, le 14 jours correspond à un délai d'incubation maximum. Et c'est vrai qu'il est plutôt en moyenne, comme je vous l'ai dit, autour de 4-5 jours. Donc on s'est pris cette sécurité-là,
oui,
pour que des personnes qui auraient été infectées puissent déclencher leurs symptômes et qu'on les repère, qu'on les isole, etc. etc. Donc c'est déjà une marge de sécurité assez importante, les 14 jours.
Alors où est-ce qu'on fait les tests? Quel est le délai pour rétablir un diagnostic? En fait, puisque je pense qu'il faut aussi rappeler aux personnes qu'il faut éviter de se rendre dans les hôpitaux lorsque l'on pense avoir les symptômes ou qu'on pense être malade, et rester chez soi. C'est les médecins qui interviennent au domicile des personnes?
Alors, il y a plusieurs possibilités. Il y a effectivement cette possibilité d'avoir un prélèvement à domicile ou une hospitalisation pour faire le test à l'hôpital. Et le résultat... Bon, alors, tous les laboratoires ne font pas le test.
Hein. Ouais.
Il y a un certain nombre de laboratoires habilités à le faire. Et une fois que le test arrive au laboratoire, c'est juste quelques heures.
Alors, qu'est-ce que c'est comme test, en fait?
Alors, on fait un prélèvement dans le nez, hein, c'est un coton-tige qu'on introduit assez profondément dans le nez pour récupérer du matériel. Et ensuite, c'est ce qu'on appelle une PCR qui permet de savoir, de détecter des présences du virus.
Alors, quelle est la prise en charge lorsque l'on est contaminé ?
Alors, quand on est contaminé, donc l'hospitalisation, l'isolement, le traitement est avant tout symptomatique. Il n'y a pas de traitement spécifique contre ce virus. Donc, si jamais on a de la fièvre, et ça va être un traitement pour lutter contre la fièvre. Si on a une pneumonie, c'est aussi un traitement pour faire en sorte que le patient respire bien, ait suffisamment d'oxygène, etc. Mais c'est purement symptomatique. Il y a des traitements antiviraux qui sont recommandés dans certaines situations, mais là, c'est vraiment pour des patients graves et qui sont à l'hôpital.
Alors, le virus touche les voies respiratoires. Est-ce que le fait de fumer peut aggraver les choses? Ou en tout cas, est-ce que lorsque l'on fume, on est plus à risque d'attraper la maladie?
Alors, il semblerait, d'après les premières études, que le tabac soit un facteur de risque, mais on attend une confirmation.
D'accord. Alors, on va finir avec les déplacements. Faut-il reporter ses voyages, notamment au sein de l'Union européenne? Et pour les auditeurs qui nous écoutent, qui prévoient d'aller sur le continent africain dans les jours, les semaines à venir, est-ce que ces voyages sont recommandés?
En l'occurrence, il y a certains pays où le virus circule beaucoup. Là, c'est plutôt à éviter.
Oui.
Dans les autres pays, c'est toujours difficile à dire. C'est difficile de dire quel va être l'état de l'épidémie dans le pays au moment de son arrivée dans le pays. Je crois qu'il faut à chaque fois faire un peu une balance entre l'intérêt d'aller dans le pays et puis les risques qu'on prend.
Alors, on dit aussi que la panique excessive pourrait en réalité accroître la maladie. Pourquoi on dit ça?
Ce qui serait dommage, c'est qu'en paniquant, les gens se ruent sur leur médecin et embolisent comme ça le système de soins. Là, ça serait embêtant parce que ça serait une perte de chance à la fois pour les vrais malades de coronavirus, mais aussi pour les autres vrais malades. Les gens, hélas, continuent à faire des infarctus, à faire des accidents vasculaires cérébraux, et il faut que tout le monde soit pris en charge correctement. Donc, c'est une raison de toutes les mesures qui sont mises en place aujourd'hui. Quand on dit qu'on veut réduire la diffusion du virus, c'est pour éviter au maximum de surcharger le système de soins et faire en sorte que les patients qui en ont le plus besoin puissent accéder au système de soins et être pris en charge correctement.
Alors, il reste que quelques minutes, on va les consacrer au message de prévention. Quelles sont les mesures de prévention? Les rappeler, parce que c'est très important. Qu'est-ce que vous avez envie de dire pour terminer, pour conclure aux auditeurs qui nous écoutent, docteur?
Les mesures, c'est ce qu'on a déjà dit, le lavage des mains qui est quelque chose de très important, le faire bien, c'est-à-dire imaginer avoir de la peinture sur les mains et mettez de la peinture rouge sur les mains et que vous ayez envie que l'entité de vos mains soit rouge. Et ça veut dire qu'il faut vraiment frictionner entre les doigts, au-dessus de la main, en dessous des mains, sous les ongles, etc. etc. Ça, c'est très important. Limiter les contacts, c'est vrai qu'on peut se dire bonjour autrement qu'en se faisant la bise et en serrant les mains. Quand on est évité, dans la mesure du possible, le confinement avec d'autres personnes.
Protéger les anciens aussi et bien sûr, de rendre visite.
Voilà, et ça c'est vrai pour le coronavirus comme pour toute autre maladie. Quand on a la goutte au nez, quand on a un peu de fièvre, on ne va pas voir des gens fragiles. Ça, c'était vrai pour la grippe, c'est vrai pour le coronavirus.
Merci beaucoup d'être venu, docteur Isabelle Bonmarin. Je rappelle que vous êtes responsable de l'unité prévention des risques infectieux et environnementaux à Santé Publique France. Les informations sur le site de Santé Publique France, notamment concernant le Covid-19, sur le site du gouvernement également, www.gouvernement.fr.info. Ça continue. Et puis, n'oubliez pas l'allocution du chef de l'État ce soir à 20h. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau d'Africa Radio. On continue avant la pause avec une petite pause musicale.